Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 16 avril 2023. À Dis-moi ce que tu lis, on parle de poésie avec Catherine Boissy, enseignante de deuxième année à l'école de Montarville à Saint-Bruno, et avec trois de ses élèves, Anaïs Dufault, Margot Lafortune et Rufus Labbé-Lorrain. Ensuite, on retrouve avec plaisir Marie Barguirgian. Dans sa chronique, la chronique de Marie B, elle établit des liens entre les albums et l'approche artistique des créateurs. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Aujourd'hui encore, des livres et des découvertes à propos de littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Catherine Boissy, enseignante en deuxième année à l'école de Montarville du Centre de service scolaire des Patriotes. Bonjour Catherine.
Bonjour Marie.
Catherine, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur Zoom. Avec vous, il y a trois des élèves de votre classe de deuxième année. Anaïs Dufault, Margot Lafortune et Rufus Labbé-Lorrain. Bonjour.
Bonjour.
Bon, bienvenue à vous trois à Imagémo à voix haute. Si vous voulez, on va débuter avec vous, Catherine. Alors, on va vous demander un petit peu de patience. Les trois, Anaïs, Margot et Rufus, on va vous revenir tout à l'heure pour parler de poésie avec vous. Alors, on va d'abord parler de votre école à Saint-Bruno. Vous y enseignez depuis longtemps, Catherine?
C'est ma septième année à cette école-ci.
OK.
À Saint-Bruno.
À Saint-Bruno, mais vous étiez ailleurs avant.
Oui, j'ai fait peut-être 2 ou 3 ans avant à contrat, puis ensuite j'ai eu mon poste, là, ma permanence ici à Saint-Bruno. Et depuis ce temps, je suis ici
et
avec mes collègues.
Qu'est-ce qu'on peut dire de votre milieu scolaire, de l'école?
C'est une grande école. On est nombreux, on est plus de 600 élèves, mais c'est un milieu, somme toute, assez aisé culturellement aussi. Les élèves sont allumés, les élèves ont vécu des choses, ils lisent déjà à la maison. Et donc, on a des parents aussi présents. Donc, c'est un beau milieu stimulant pour les enfants.
Ah, ça, c'est bien. Dans votre classe, Catherine, il y a des dizaines et des dizaines de livres que les enfants peuvent lire et consulter. Votre enseignement s'appuie sur la littérature jeunesse. D'ailleurs, vous êtes l'une des administratrices de J'enseigne avec la littérature jeunesse, fondée par des enseignantes passionnées comme vous en 2014, qu'on peut voir et consulter sur Facebook et sur le blog du même nom. Vous avez coécrit l'ouvrage didactique « Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse » avec de quelques-unes de vos collègues. Comment ça se concrétise tout ça dans la vraie vie avec les enfants de votre classe?
Oui, ben c'est important pour moi que les élèves apprennent à lire en étant lecteurs, donc en lisant des vrais livres, que ce soit leur vraie vie de lecteur là qui évolue. Donc je leur enseigne des stratégies autant pour les bonnes habitudes de lecteur, préparer sa pile à lire, faire le survol, comment choisir un livre, mais aussi des stratégies là plus liées à la compréhension de la lecture, à la réaction de la lecture. Puis c'est la même chose en écriture. Lorsqu'on écrit, on s'inspire des auteurs, des vrais livres jeunesse. Puis après ça, on va s'inspirer de ça pour écrire à notre tour, donc ils développent leur plume de jeune auteur.
Ah, c'est très, très, très stimulant. Et tout récemment, vous avez présenté un genre littéraire qui est bien particulier à vos élèves. Vous avez lu et écrit de la poésie en classe avec eux. Comment ça s'est passé? Comment vous avez présenté ça?
Oui, puis souvent, c'est leur premier contact en deuxième année avec de la poésie. C'est pas un genre, là, quand ils commencent à apprendre à lire, auquel les enseignants vont les mettre en contact. Mais ils connaissent par contre les comptines, ils connaissent les chansons, puis il peut quand même avoir un lien entre la poésie et la musique, les comptines, les chansons.
Ouais.
Donc, voilà, On a fait pour commencer, des ateliers qui tournent, donc des ateliers tournants. Donc, il y avait plusieurs bacs avec des livres, des activités à découvrir en lien avec la poésie pour qu'ils puissent un peu avoir une première immersion dans la poésie. C'est quoi la poésie? Il y a certains élèves qui ont nommé après les premiers ateliers là, qui tournant que la poésie, ça leur faisait vivre des émotions. Ils ont parlé, ils ont reconnu la musicalité aussi dans la poésie, le choix des mots. Ils ont dit que la poésie, souvent, ça leur faisait du bien. Donc, c'est un petit peu. On a mis la table, puis ensuite, ben, on a commencé à faire des ateliers d'écriture de poèmes. Donc, on est parti de voir avec nos yeux de poète, hein, regarder des objets, essayer de voir comment est-ce qu'on peut le regarder autrement. Donc, que notre taille-crayon soit pas qu'un taille-crayon. Donc, on se disait que c'était des petites abeilles qui travaillaient fort pour tailler notre mine. On a regardé le plafond de notre classe. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a amené finalement à regarder aussi à l'intérieur de nous nos émotions pour voir autrement avec nos yeux de poète.
Et en produire. Donc, on pourrait laisser la parole à vos élèves pour nous en parler plus longuement. Vous avez choisi tous les trois de nous parler d'un des livres de poésie que vous avez lu. Alors, peut-être que Rufus, tiens, commençons avec toi. Qu'est-ce que tu as choisi de présenter? Qu'est-ce que c'est le livre dont tu voudrais nous parler?
C'est un livre avec des haïkus. Les haïkus, c'est comme des petits poèmes, mais avec trois lignes, habituellement. Et ce livre-là, il s'appelle Quelques instants d'année. C'est aux éditions de Soulière Éditeur.
OK. Et c'est tu m'avais dit que c'était Nadine Deschenaux qui a écrit ce livre-là, c'est ça? Ouais. Et pourquoi c'est ton livre préféré en poésie?
Parce que c'est pas des poèmes trop longs à lire, donc c'est moins facile de faire des fautes en
Ah.
lisant un poème.
OK. Est-ce que tu en as choisi un? Est-ce que tu voudrais nous en lire un? J'aimerais ça. On t'écoute.
Blabla matinal, retrouver toutes mes amies, bonheur du lundi.
Ah, ça commence bien la semaine. C'est bien, super. Merci beaucoup, Rufus. Passons à Margot. Margot, qu'est-ce que tu veux nous présenter, toi, comme livre de poésie que tu as lu?
Ben, c'est un très, très gros livre, mais il y a aussi... Mais en fait, pour commencer, le nom du livre, c'est Hochelaga, mon quartier. Puis c'est un poème d'écolier
Des
montréalais.
Montréalais, donc qui habitent à Montréal. Puis ça a été illustré par l'illustrateur, tu me l'avais dit, hein, c'est Roger, c'est ça? T'en as choisi un, est-ce que tu veux nous le lire?
Oui. J'ai trouvé un oiseau blessé. On l'a lancé pour qu'il vole. Il est tombé et il est mort.
Oh, c'est un peu triste celui-là, hein? C'est vrai, ça nous fait vivre des émotions. Pourquoi tu as choisi ce livre-là, toi, Margot?
Parce que de un, j'aime beaucoup les animaux, puis de deux, ça m'a vraiment touchée.
Ah, ça t'a touché. Ben oui, c'est vraiment, effectivement, c'est une bonne raison. Puis toi, Anaïs, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter comme livre de poésie?
Un petit poème, un petit livre avec plein de petits poèmes de l'hiver.
Ouais, ça s'appelle comment?
Flocons.
Flocon, ben oui. Et c'est un livre de qui? Qui l'a écrit?
Paul Brioche.
D'accord.
Gabriel Grimard.
Grimard. Et tu as choisi de nous lire un des poèmes de ce livre de poésie Flocons. On t'écoute, Anaïs.
Peluche polaire pose en édredon sur le dos de ours endormi pour l'hiver.
Oh, c'est très, très joli. Je te félicite. Merci, Anaïs. Et vous avez découvert donc des auteurs, des autrices de poésie, mais vous êtes vous-même devenus des auteurs parce que vous avez écrit à votre tour des poèmes. Moi, j'aimerais tellement ça entendre, vos créations artistiques. Est-ce qu'on peut commencer avec Margot?
D'accord.
Oh, on t'écoute, Margot.
Ben, le titre de mon poème, ça s'appelle C'est elle. Puis,
On
c'est ça. Alors, ouais, tu vas
t'écoute.
le lire. Elle est gentille, c'est elle. Elle me chante des chansons pour m'endormir, c'est elle. Elle est belle, c'est elle. C'est elle. Elle, c'est ma maman.
Oh, quelle chanceuse, cette maman! C'est elle! C'est magnifique, cette répétition. Bravo, Margot, j'ai beaucoup aimé ça. Et Anaïs, toi, est-ce que tu veux nous lire ta poésie?
Le titre,
Oh,
c'est le
d'accord.
cerf-volant, parce qu'on a un cerf-volant dans la classe. Puis là, je m'inspirais à relire. Le cerf-volant dans la classe, j'aime et j'imagine qu'il vole sur la plage et il vole jusqu'à revenir au départ.
Oh wow, ça nous donne le goût, hein, de faire voler le cerf-volant. Merci Anaïs. Et toi Rufus, qu'est-ce que tu as écrit?
J'ai écrit un poème sur un crayon, mais c'est mon poème. Je trouve qu'il y a un peu de magie un peu dedans, mais c'est pas vraiment comme un tapis volant.
Ah non, non, d'accord. On écoute ça.
Petit bâton de bois pour écrire nos rêves, aussi tu me rends joyeux et calme. Que tu sois petit ou grand, tu me rendras toujours aussi content.
J'adore ça, Rufus. Et toi, Catherine, vraiment, qu'est-ce que vous observez, pas toi, Catherine, vous, Catherine, qu'est-ce que vous observez chez vos élèves quand vous leur présentez ce genre littéraire?
Moi, ce que j'aime le plus quand je présente la poésie, ben un, ça touche les cœurs. Et deux, j'aime que les élèves se découvrent en tant qu'auteurs de poèmes. Je les rencontre sous un autre œil. Je les vois avec leurs grandes émotions. Au tout début, on a eu un élève dans la classe qui pleurait. Il s'était replongé dans son émotion. Donc, on
Oh.
vit une grande montagne russe d'émotions. Puis, je trouve que ça nous rapproche en tant que famille de classe.
Oui, hein, c'est intéressant. Puis on crée, bien, ce que vous le faites de toute façon, à chaque fois que vous mettez en lien la lecture et l'écriture, on crée une communauté de lecteurs, puis une communauté de scripteurs. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment
Totalement.
génial. Oh, je vous remercie. Quelle chance on a aujourd'hui de pouvoir parler aujourd'hui du plaisir des mots. Je vous remercie, Catherine Boissy, de permettre aux élèves qui passent dans votre classe de faire autant de belles découvertes. Merci aussi de contribuer à faire rayonner la littérature jeunesse via J'enseigne avec la littérature jeunesse. On va mettre le lien sur le site de l'émission pour que les gens puissent aller voir ce que vous produisez, le blog, la page Facebook et tout ça, là. Et merci à vous trois, Anaïs Dufaux, Margot Lafortune et Rufus Labbé-Lorrain, d'avoir partagé avec nous de si jolis mots. Au revoir. Au
Au
revoir.
revoir Marie, merci
Bye.
beaucoup.
Merci, je vous embrasse.
Bonjour, je m'appelle Aurélie et j'ai 9 ans. J'aime lire parce que ça m'aide à pratiquer mon oral.
La chronique de Marie Barguir-Dion.
C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons Marie Barguirdian et sa chronique régulière à l'émission. Bonjour Marie.
Bonjour Marie, plaisir partagé.
Aujourd'hui, vous faites un lien entre le travail des illustrateurs et illustratrices dans certains albums et l'art, rien de moins. On vous écoute.
Et quelle richesse. Et dans les albums de littérature jeunesse, vous le savez, Marie, la lecture se joue dans une double narration, celle du texte et des illustrations. Les illustrations, j'en ai déjà parlé dans une précédente chronique pour indiquer leur importance et leur rôle au niveau de la compréhension, de l'anticipation, de l'interprétation. Que font les enfants au fil de l'histoire? La façon dont ils s'approprient déjà une forme de lecture. Et l'illustration d'un album est bien souvent ce qui nous attire en premier lieu dans les choix que nous faisons. Il se pourrait même d'ailleurs qu'on ait tendance à choisir pour nos enfants les albums dont les illustrations nous attirent, nous,
Ah
adultes.
oui, on fait ça.
Ou les illustrations qui nous rappellent quelque chose. Et combien de personnes achètent encore des Martines, hein? C'est pourquoi je suggère fortement à nos auditeurs de penser à varier leurs choix, car l'album est bien le premier musée qu'un enfant visite. Et oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Květa Pakowska, et je suis bien d'accord. Elle vient de nous quitter, cette créatrice qui faisait pour les plus jeunes des albums fabuleux, tout à fait originaux dans leur esthétique, leur créativité et dans un style bien à elle. Gveta était une grande artiste et je n'ai pas peur de dire ici que les illustrateurs et les illustratrices de livres pour la jeunesse sont de grands artistes. Mmh. Au-delà de leur travail à raconter, à côté et avec le texte, ils déploient chacune et chacun leur style, leur technique, leur esthétique. Et les enfants les reconnaissent bien quand on leur apporte cette variété. Ils font très bien la différence entre un Claude Ponty, une Élise Gravel, une Manon Gauthier, Mireille Levert ou Isabelle Arsenault. Cette initiation à l'esthétique des œuvres littéraires les enrichit et leur apprend à apprécier le monde visuel, un monde très présent dans leur vie actuelle. Dans cette admiration que je porte aux illustrations, il y a quelque chose d'un peu militant. À l'heure des tablettes ou d'autres supports numériques, et qui réduit un peu tout de même, au même format. Mmh. Car enfin, une illustration de Stéphane Poulain, peinte à l'huile avec cette brillance, cette lumière particulière à cette technique, n'a pas le même effet que les collages de Manon Gauthier ou les crayons d'une Kitty Quater ou de Caroline Merola. Mmh. Et cela, c'est sans parler de l'objet livre lui-même qui sert aussi l'aspect artistique. Certains déploient leurs livres en largeur, format à l'italienne, d'autres en hauteur. Les illustrateurs et illustratrices redoublent d'astuces sur la page pour qu'elle devienne un véritable espace dans lequel l'enfant circule tout comme le héros qu'il suit. Tout compte, Marie. Mm-hmm. Les formats, les médiums, les styles, minimaliste, impressionniste, fantastique, expressionniste, etc. Il y a des personnages dessinés au trait fin, d'autres avec un trait gras. Certains usent de couleurs douces, d'autres ont une palette beaucoup plus tranchée. Bref, on sent combien ce monde des albums est déjà une petite initiation à l'art, dans la mesure où l'on habitue les enfants à cette très grande richesse de représentation. Mmh. Allons plus loin, si vous le voulez bien. Savez-vous qu'il se cache dans certaines illustrations des clins d'œil à de très grands artistes, des allusions très claires à des œuvres célèbres? Un exemple des plus connus se trouve sans doute dans le fameux Chien bleu, où la créatrice, Nadja, met en scène un pique-nique qui ressemble fortement au déjeuner sur l'herbe de Manet. Stéphane Poulain lui-même, qui adore la peinture ancienne, a déjà carrément repris pour modèle la dentelière de Vermeer, peintre du XVIIe siècle. Dans les deux cas, les illustrateurs reprennent la composition générale du tableau, mais y introduisent des éléments nécessaires pour créer un lien avec l'histoire contemporaine qui est racontée. Que l'on connaisse ou pas ses œuvres, ses clins d'œil iconographiques, pour parler un langage savant, cela n'a pas tant d'importance. Non. Mais ça montre à quel point les créateurs, illustrateurs, illustratrices apportent dans l'univers quotidien des enfants un accès à l'art. Ce qui m'inquiète sur les tablettes, pour revenir à mon côté militant,
on y revient.
C'est qu'on ne sente plus cette matière, les coups de pinceau, le geste, l'épaisseur de la couleur, la transparence de l'aquarelle, et que tout soit au même format. J'ajouterais un mot sur certains albums qui ont une véritable volonté artistique. J'évoquais tout à l'heure Gveta Pakowska, mais pensons aussi à Anthony Bourne, qui use partout d'allusions au monde surréaliste de Magritte ou de Dali. Abous Roberts, récemment décédé, génial créateur anglo-montréalais qui se montrait expressionniste dans ses illustrations. Pensons aussi à tous ces livres d'art pour enfants, évidemment ça me concerne, mais ils contribuent vraiment à mettre entre leurs mains des découvertes artistiques. L'album est un genre bien défini aujourd'hui qui ne cesse d'évoluer. Il est définitivement source d'une grande richesse pour nos jeunes lecteurs et un accès indéniable au monde artistique. Bien sûr, le rôle d'une illustration dans un livre n'est pas le même qu'un tableau accroché au mur d'un musée, mais les deux sont intimement liés puisque dans un tableau, il y a toujours un pouvoir fictionnel. Dans le temps et dans l'espace, un tableau nous raconte quand même quelque chose. Même un tableau abstrait.
Ouais.
Quand un illustrateur ou une illustratrice s'en empare pour le glisser dans une illustration, alors cette illustration est une formidable source d'enrichissement pour l'enfant. C'est un lien qui va de soi, il me semble. En multipliant nos choix esthétiques d'albums, nous ouvrons nos plus jeunes à la diversité. Nous les rendons plus libres et plus audacieux dans leurs propres explorations. Et puis, n'oublions pas pour conclure que la rencontre entre l'art et l'enfant est une chose naturelle puisque les tout-petits dessine avant même de lire ou d'écrire.
Ah, ben oui, c'est vrai. Et puis, on trouve toujours ça beau, ce qu'ils font, les enfants, quand ils commencent à dessiner. Votre chronique, ça m'a rappelé aussi l'album Augustine de Mélanie Watt, dans lequel elle s'amuse à insérer dans l'histoire du petit manchot des illustrations qui évoquent des peintres célèbres tout au long du livre. Alors, il y a plein de créateurs qui font ça.
Oui, on aurait pu lister beaucoup de tableaux. On a mis quelques exemples, je crois.
Ben, merci. Je vous remercie, Marie, de nous permettre de faire ces liens. À très bientôt.
À très bientôt, Marie. Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle et j'ai 8 ans. J'aime lire à voix haute parce que je fais connaître le livre aux personnes qui m'écoutent.
Les actuels littéraires.
D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, et vous trouverez sur le site de l'émission tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 23 avril, à Marie Raconte, je lis le livre « Poussière d'étoiles » de Jane Willis et Briony May Smith, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. À côté de sa grande sœur qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une petite fille cherche sa place et se confie à son grand-père. Elle rêve de briller, elle aussi, comme une étoile. Emplie de tendresse et de magie, une histoire chaleureuse qui invite à prendre confiance en soi. Parce qu'il y a une étoile en chacun de nous. On en écoute un extrait. C'est la nuit. Le ciel noir est rempli d'étoiles qui brillent. Assise dans les hautes herbes bleutées, entourée de fleurs blanches, les genoux enserrés dans ses bras, la petite fille observe le ciel. Son chat noir s'approche doucement d'elle. Derrière, venant de la maison, le grand-papa arrive, tenant quelque chose dans ses mains. Au cou, il porte l'écharpe verte qu'elle lui avait offerte. « Ce soir-là, mon grand-père m'a trouvée en train de regarder le ciel. Il était constellé d'étoiles. Alors j'ai fait un vœu, celui d'être... « Moi aussi, une étoile. »« Mais tu es une étoile, » a dit papy, avant de me raconter une histoire. « Il y a bien longtemps. » À partir d'ici, on entre dans l'histoire racontée par le grand-papa. Du jeudi 20 au dimanche 23 avril se tiendra le 38e Salon du livre d'Edmundston. Sa mission, la promotion, la passion et la diffusion de la littérature francophone au Nouveau-Brunswick. Ça a lieu à la Cité des Jeunes, A.M. Sormani, au 300 rue Martin à Edmundston. Dimanche, le 23 avril, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Selon le site de l'UNESCO, cette journée vise à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Chaque 23 avril, des célébrations se tiennent partout dans le monde pour démontrer le pouvoir magique des livres. Choisi par la Conférence générale de l'UNESCO en 1995, cette date symbolique de la littérature universelle marque la disparition des écrivains William Shakespeare, Miguel Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega. Cette journée rend un hommage mondial aux livres et aux auteurs et encourage l'accès aux livres au plus grand nombre. Du jeudi 27 au dimanche 30 avril se tiendra le 39e Salon du livre de la Côte-Nord à l'Aréna Guy Carbonneau au 490 Avenue Joliette à Sept-Îles. Connaissez-vous la série de balados documentaires pour enfants à l'écoute de La puce à l'oreille? Conçue en partenariat avec des maisons d'édition québécoises indépendantes, en complément à des albums jeunesse, À l'écoute invite et incite les jeunes lecteurs et lectrices à découvrir, apprendre et comprendre le monde qui les entoure des bijoux. En voici un exemple où on entend la voix de Elkana Talbi sur le thème des dragons. On écoute.
À l'écoute!
À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les dragons, un balado en complément de l'album La soupe aux allumettes, écrit par Patrice Michaud et illustré par Guillaume Perrault, publié aux éditions Fonfon.
Les dragons. Tu connais ça, toi, les dragons? C'est les dragons, ces créatures mythiques, des sortes de reptiles gigantesques qu'on décrit parfois comme ayant des ailes et crachant du feu. Oh, j'aimerais ça, moi, avoir un dragon de compagnie. Un dragon domestique avec lequel jouer, m'envoler dans le ciel et vivre plein d'aventures. Ah, toi aussi, t'aimerais ça? Ben, chouette! On peut en parler ensemble, alors. Bon, évidemment, les dragons, ça n'existe pas. Enfin, ces dragons-là, les dragons des légendes, n'existent pas. Il y a sur Terre des animaux appelés les dragons ou varans de Komodo. Ils vivent en Indonésie, en Asie du Sud-Est, sur l'île de Komodo. Les dragons de Komodo volent pas et ils crachent pas de feu non plus. Par contre, ce sont de très, très gros lézards qui font plus de 2 mètres de long. C'est à peu près la longueur d'un gros sofa. Les dragons de Komodo ont une langue fourchue avec laquelle ils détectent les odeurs. Et ils sentent terriblement mauvais. Cette odeur répugnante, c'est parce qu'ils sont des animaux charognards qui se nourrissent d'animaux morts, même s'ils disent pas non à une proie vivante. D'ailleurs, le varan, c'est assez dangereux comme animal. Ils se déplacent vite, leur mâchoire est puissante et ils sont un peu agressifs. En fait, si t'as envie d'adopter un dragon, je te déconseille vraiment le dragon de Komodo.
Le 1er avril dernier était remis le prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec. Le prix Espiègle met en vedette des livres audacieux, malicieux, qui osent et qui sont d'une grande qualité littéraire. Des livres dont le sujet dérange, déstabilise, remet en question et suscite même parfois un malaise. Je cite ici les mots de l'autrice Sarah Lalonde, porte-parole de l'édition 2023. Un prix qui se doit d'exister pour montrer aux jeunes lecteurs et lectrices que ces livres méritent d'être lus, relus, débattus et chéris. Un prix comme un phare, voire une bouée qui nous rappelle qu'il est bon de s'aventurer dans les eaux inexplorées et de donner l'heure juste du monde à nos enfants et nos ados. Félicitations donc aux gagnants et aux finalistes dans chacune des deux catégories. Pour le primaire, le livre lauréat est « Le plus petit sauveur du monde » de Samuel Larochelle et Eve Patnaud des éditions XYZ. Et pour le secondaire, le livre lauréat est « Entre le lapin et le renard » de Nathalie Lagacé des éditions Isatis. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et collaborateurs. Catherine Boissy, enseignante à l'école de Montarville, et ses élèves Anaïs Dufault, Margot Lafortune et Rufus Labbé-Lorrain. Marie Barguirgian pour sa chronique. Michel Brûlé au soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture! Thank you.